Les Vicinales, une émission de et par Michel Giroux et
Robert Giroux.
Bonjour à vous, auditeurs de Radio Grand Ciel.
Bonjour.
Où allons-nous aujourd'hui ?
Rendez-vous pour aujourd'hui dans le Perche Vendômois. Le Chartrain se rendra à Brou, d'où il joindra la Chapelle Royale, puis Mont-Doubleau, où il prendra la direction de Bulou, où tout un chacun pourra lui indiquer l'endroit où nous nous rendons aujourd'hui. Il faut d'abord passer la grille blanche, haute. Grille non pas défensive, mais qui semble plutôt séparer deux états de l'univers. Celui que nous connaissons, qui fait notre quotidien, et dans lequel nous faisons ce que nous pouvons pour être les meilleurs humains possibles. Et celui de Malek Jan Nemati. Du moins, celui dans lequel un signe de sa présence est encore visible. Pour un chrétien, l'esprit et la présence divine sont vrais. On trouve Dieu en toutes choses et en tout. Mais le lieu sacré est celui dans lequel nous communions, l'édifice dressé pour que converge et se retrouve le peuple de Dieu. L'endroit où nous entrons aujourd'hui est certes sacré, mais n'a rien d'exagérément officiel, d'intimidant, de solennel. En prenant la petite allée gravillonneuse qui mène au mémorial, j'ai plutôt le sentiment de venir visiter une parente proche, une parente aimée. L'endroit n'a rien d'un mausolée, il est en pleine nature, dans une clairière, posé juste au milieu, entouré d'un bois, d'un vaste pré, et l'allée est longée de jeunes buis, jeunes chênes, quelques charmilles, un rosier sauvage. Quelques pas sonores dans le gravillon, et nous sommes face au mémorial, que l'architecte aura voulu blanc, entièrement, à peine souligné de quelques points dorés. Rappel à la richesse symbolique de l'or et du blanc dans toutes les spiritualités. Magnifique pièce d'architecture, à la fois sobre, recueillie, noble, indéniablement belle. Elle est posée sur un promontoire de quelques marches, de forme parfaitement carrée dans sa partie basse, quatre piliers aux angles, un fronton rehaussé d'un linteau doré et le toit filant vers les cieux comme un clocher d'église. Une pointe dorée au sommet de l'édifice désigne le ciel. Au premier coup d'œil, ce qui nous paraît le plus nettement est ce choix d'une géométrie simple. On en trouve les figures élémentaires, le carré, le triangle, le rectangle. On ne cherche pas, ici, à défier les limites des lois de l'équilibre. Au contraire, on les exprime avec joie, on les chante. Tout est d'un blanc franc, sans être aveuglant. Le mémorial est clos par de hautes parois vitrées. Pas de mur ici, juste le verre. Malek Jan Nemati voit le monde et nous voit, comme le monde et nous-mêmes la voyons. Au centre du mémorial, une dalle blanche, rehaussée d'une plaque de verre aux dimensions exactes de la dalle. Sur cette épaisse plaque de verre, des pétales de fleurs, multicolores. La dalle est entourée d'un dispositif de cordes blanches en rectangle. Disposition à rien solennel. Mais c'est surtout un air de grande liberté qui s'en dégage. Liberté, calme, vue totale. Nous voyons tout, tout nous voit. Une statue représente Malek Jan Nemati dans son grand âge, sa canne à la main, son bonnet. Il s'en dégage d'une profonde paix, une douce humanité. À côté d'elle, un portrait posé sur un trépied la représente, peut-être en prière, peut-être en songe. Au bas du portrait, quelques mots. « In loving memory of Malek Jan Nemati ». Disposés au pied, des orchidées, beaucoup, et de toutes les couleurs. Beauté, simplicité, grandeur, amour du prochain. Si tout cela compte pour vous, vous serez heureux de votre visite comme je l'ai été de cet instant partagé avec la nature, le ciel, l'architecture, le souvenir et tous les bienfaits, encore si sensibles ici, du cœur dévoué de Malek Jan Nemati.
Partons maintenant très loin du Perche Vendômois. Quittons les collines verdoyantes pour un paysage de montagne, un paysage minéral, aux flancs arides. Mais dans une de ces vallées reculées isolé du Kurdistan iranien, se trouve un petit village, comme une oasis, champs cultivés, vergers, entourés de rochers. Le village s'appelle Jeunabad. C'est là que Sainte Jamie est née. Elle est née dans une de ces maisons, en terre, en torchis, des toits plats, une cour intérieure. De son vrai nom, elle s'appelle Malek Djian Nemati. Du village, de loin, dépasse la pointe du mausolée consacré au père de Sainte Jamie. Elle naît donc en 1906, dans une famille qui appartient à l'ordre Al-e-Hak. On entend par là une communauté fondée au XIVe siècle dont la doctrine réunit les religions anciennes de l'Iran, Zoroastre entre autres, l'islam et probablement d'autres éléments plus difficiles à discerner. Cette communauté est une société fortement imprégnée de religiosité. La vie n'est pas séparée de la foi. La foi imprègne la vie quotidienne. Un point essentiel est la doctrine des vies successives. Ainsi, pour les membres Al-e-Hak, se succèdent les envoyés divins dans le temps historique. Ces envoyés divins sont des prophètes, des saints, mais aussi des philosophes, des poètes, voire des figures historiques. Il en découle une authentique tolérance envers toutes les religions issues de la même source. Mais revenons à Sainte Jamie. Elle vit donc dans le village de Jeunabad, une fille dans un monde très patriarcal où l'on présente ses condoléances à une famille quand une fille naît. Pourtant, son père va non seulement l'aimer, mais aussi lui donner une éducation et la même qu'il va donner à son fils Ostad Elahi. On reparlera de lui. Prudent, cependant, il va l'habiller en garçon. Pantalon blanc, robe blanche, calotte blanche, tenue qu'elle a gardée plus tard. À 14 ans, son père décède, ce père qu'elle aimait. Peu de temps après, elle commence à souffrir d'une affection oculaire très douloureuse. À 20 ans, sa cécité est complète. Ce qui signifie dans cette société rurale isolée, l'exclusion, l'impossibilité de se marier. Cependant, Sainte Jamie va montrer une force de caractère peu commune, la force de transcender cette tragédie en une source de richesse intérieure. Elle ne renonce pas à son autonomie. Les photos la montrent occupée à tricoter, à coudre. En fait, cette cécité la détacha du monde et lui ouvrit des horizons qu'elle ne soupçonnait pas. Elle ne cesse pas d'être curieuse. Elle aime apprendre. Elle s'intéresse aux sciences modernes, à la littérature, à la théologie, la géographie. Elle se fait lire le journal, écoute la radio, écoute des cassettes qu'on lui a enregistrées. Cependant, elle n'a pas cherché à faire carrière, à faire prospérer ses connaissances. Elle dit « Quand je parle de recherche, il ne s'agit pas d'analyser des livres, mais de faire des recherches en soi-même. » Il faut polir son propre être jusqu'à se connaître soi-même. Elle dit également, « Lorsque j'irai dans l'autre monde, il me faudra encore étudier, car je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai appris ici. » Qui l'accompagne dans cette quête spirituelle? D'abord son père, qui a écrit un poème, le Livre des Rois de Vérité, qui expose la croyance à Al-e-Hak, puis l'accompagne aussi son frère, Ostad Elahi, musicien. Le frère et la sœur jouaient du tambour, T-A-N-B-U-R. Ostad Elahi était aussi philosophe et chercheur. Sur ce point, elle a dit, « Les univers spirituels étaient d'une telle richesse qu'après le départ de mon père, je fus désorientée. J'ai cherché incessamment une direction spirituelle qui me conduisent à la source. Et ce n'est que vers l'âge de 30 ans que j'ai trouvé cet axe, en la personne de mon frère Ostad Elahi. Tout ce que j'ai compris et transmis par la suite, ce sont ses enseignements et ses principes. Tout ce que je sais vient de lui. » À la suite de son frère, elle méditera et travaillera à se détacher du monde, de ses tentations, de ses plaisirs, ceux de l'ego, et même à renoncer au plaisir spirituel. À ses yeux, Il ne faut rien attendre. Ni puissance, ni vision, ni miracle. Il faut adorer Dieu, ni par crainte de l'enfer, ni par espoir du paradis, mais simplement parce qu'il est digne d'être adoré. Nommé Cheikh par son frère, titre qui traduit le respect pour sa sagesse, sa démarche spirituelle, elle prend en charge l'éducation spirituelle des habitants de Jeunabad, le petit village dont je vous ai parlé au début de cette émission. Une femme donc qui guide les femmes et les hommes du village. Son action ne se fait pas sentir que dans le domaine spirituel. Elle est considérée comme sainte pour des actions bien concrètes. Par exemple, elle fait venir l'électricité au village. Elle encourage la culture des fruits et légumes. Elle impose aux familles d'envoyer les enfants à l'école, mais pas que les garçons, les filles aussi. Elle exige des mères qu'elles nourrissent les filles autant que les garçons. Elle exige aussi des mères et des pères que l'héritage soit partagé à part égale entre les filles et les garçons. Ce n'était pas le cas avant elle, et son héritage est toujours vivace dans le village après sa mort. Elle pratique la charité. Les dons qu'on lui fait parce qu'elle est sainte, elle ne les garde pas pour elle. Non, elle les transforme en un microcrédit à taux zéro pour ceux qui veulent devenir indépendants. Et les transformations perdurent après sa mort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle croyait à la prière comme moyen de lutte. N'oublions pas ce qui s'est passé en Iran, ce qui s'y vit toujours. Elle s'y est faite des ennemis parce qu'elle était Al-e-Haq. Elle s'y est fait des ennemis parce qu'elle était une femme, parce qu'elle défendait la cause des femmes, parce qu'elle croyait que toutes les religions révélées étaient égales entre elles, comme autant de sources d'inspiration. Elle s'inquiétait de la montée des communautarismes. Mais, et pour les mêmes raisons, sans doute, elle avait des amis d'origine très variée, dans le monde entier. Parmi tous ses amis, nous voulons signaler et remercier Leili Anwar, qui a écrit un très beau livre sur Sainte Janmi, livre qui porte son nom, Malek Yann Nemati, et qui est orné d'une belle citation. La vie n'est pas courte, mais le temps est compté. Son enseignement était oral. Il s'agissait souvent d'un dialogue. Nous allons vous en livrer quelques exemples.
Un homme aspiré par le tourbillon de la vie est comme un seau tombé au fond d'un puits. Avoir la foi, c'est comme avoir une anse qui peut s'accrocher au crochet et permettre au seau d'être remonté du puits. Sans la foi, le seau n'a pas d'anse et il ne peut être ni crocheté ni remonté.
Notre arme à nous, c'est de faire le bien autour de nous et d'être utile aux autres. Même si on dit du mal de nous, c'est sans importance. Nous n'avons que cette arme. Dieu nous a donné les moyens de faire le bien. Nous devons donc faire le bien sans nous soucier de ce que pensent les gens.
Pour chaque époque, Dieu envoie une guidance adaptée à cette époque. L'être humain doit penser en fonction de son temps et les personnalités spirituelles doivent se comporter en tenant compte du contexte dans lequel elles évoluent. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro des Vicinales.
Sur 106.8 Radio Grand Ciel, à bientôt.